soir, je t'invite au restaurant en amoureux.
Oh, est-ce que tu crois qu'on peut prendre l'apéritif à la maison? C'est que c'est la rediffusion de la JT du local.
Bon, vous me connaissez un peu maintenant, vous savez que j'aime particulièrement les coulisses d'un atelier d'artisan, d'un théâtre ou d'une salle de spectacle. Et ce que j'aime tout autant, c'est vous y emmener avec moi. Mais parfois, ce qui se passe en coulisses est moins joli à voir. En tout cas, c'est ce que mon invité d'aujourd'hui veut dénoncer avec l'association L214 en révélant via deux enquêtes de la maltraitance animale dans la salle d'abattage de l'élevage de cerfs de Courbevoie en Mayenne et dans l'abattoir municipal de Cran. Dans quelques instants, il sera à mon micro, Sébastien Arzac, cofondateur et porte-parole de l'association. Vous écoutez la JT du local, amis auditeuristes, bienvenue à vous et bonjour à toi Lucie.
Bonjour.
Dans la suite de l'émission, je prolonge un peu la balade à Ruyer-Froidfond que l'on a commencé hier ensemble. Nous nous sommes arrêtés dans l'atelier d'Anne-Marie Aubois, chapelière modiste. Aujourd'hui, on y retourne et pour la deuxième partie de ce reportage, elle nous explique sa manière de travailler, elle nous fait toucher les matières qu'elle utilise, elle nous montre ses outils. Puisque nous sommes mardi, vous saurez reconnaître notre chroniqueur du jour. Il a la voix chaude et grave, il sait nous raconter des histoires. Il s'agit bien sûr de Donatien, que l'on écoutera à la fin de cette émission. Bonjour Sébastien Arzac, vous êtes le porte-parole et le cofondateur de l'association L214. Je rappelle que L214, c'est une association de défense des animaux utilisée comme ressource alimentaire pour la viande, le lait, les œufs et le poisson. Vous avez créé l'association en 2008. Depuis cette année-là, on compte plus de 100 enquêtes rendues publiques révélant les conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux. Vos vidéos ont permis de révéler des pratiques et des dysfonctionnements d'une industrie qui, je vous cite, considère et traite les animaux comme des marchandises. Donc Sébastien, le 14 décembre 2023, vous publiez une enquête sur la salle d'abattage de l'élevage de cerfs de Courbevoie en Mayenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les éléments que votre enquête a révélés?
Donc, c'est une salle d'abattage qui est dédiée justement à la mise à mort des cerfs qui sont élevés sur l'exploitation. Et sur ces images, la problématique, c'est qu'on voit des animaux qui sont normalement étourdis avec un pistolet à tige perforante, mais qui est visiblement mal appliqué, puisque ce qu'on voit sur les images, ce sont des cerfs qui sont encore conscients au moment de leur mise à mort, c'est-à-dire que le pistolet d'abattage doit rendre les animaux insensibles, c'est un peu la règle générale dans les abattoirs. Ici, on voit que soit les coups sont mal appliqués, soit c'est pas assez efficace. Donc on voit des cerfs qui sont maintenus par deux personnes au moment de leur mise à mort, et on voit au niveau de leur réaction, de leur mouvement, etc., qu'ils sont encore en pleine conscience, qui sont sensibles à la douleur. Ils sont suspendus au-dessus d'un tonneau en plastique et saignés ici. Et ils sont ensuite envoyés à l'abattoir. Et c'est cocasse, mais ils sont envoyés à l'abattoir de Cran, dont on a diffusé les images il y a quelques jours.
Et alors, quand vous réalisez ces enquêtes, comment est-ce que vous procédez? Est-ce que vous recevez des alertes qui vous permettent de vous intéresser à une structure en particulier?
La plupart du temps, c'est effectivement le cas. En gros, on a un peu trois façons d'obtenir ces images, qui est vraiment le cœur du travail de L214. On ne fait pas que ça, mais la question d'informer sur les conditions effectivement d'élevage, de transport et d'abattage des animaux. Et on reçoit des signalements toutes les semaines. Vraiment toutes les semaines. En ce moment, on en reçoit d'ailleurs beaucoup sur des élevages bovins, viande. Et ce sont alors soit des personnes qui sont vraiment du monde agricole et qui sont choquées par des pratiques parce que ça correspond pas à leur façon de faire ou à l'idéal qu'ils imaginent. Soit ça peut être des personnes qui se promènent et qui constatent une situation assez terrible. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent, alors quand c'est sur le transport ou sur l'abattage surtout, des personnes qui travaillent justement dans ces différentes structures. Il y a énormément de personnes en fait qui sont du service à l'élevage. Ça peut être pour les élevages, ça peut être des gens qui viennent livrer de l'aliment, ça peut être des personnes qui travaillent des services vétérinaires, etc. On a très peu de lanceurs d'alerte qui sont d'accord de témoigner face caméra, on va dire, à visage découvert. Et on peut le comprendre, on en a quelques-uns quand même. Je pense à Mauricio pour l'abattoir de Limoges qui travaillait depuis 7 ans, ou Grégory qui travaillait dans une exploitation d'élevage de cochons aussi, qui avait témoigné. Voilà. Mais souvent, effectivement, à la campagne, dans les milieux, les personnes ont peur de témoigner à visage découvert. Donc nous, notre travail après, quand on reçoit ces témoignages, c'est de s'assurer qu'ils sont conformes au niveau des lieux, au niveau des constats. Et donc nous, notre travail après, c'est de voir avec ces personnes-là comment on peut justement obtenir après des images, parce que hélas, c'est la seule façon de faire bouger les choses. Aujourd'hui, on n'en a pas trouvé d'autre. De façon bouger les choses de façon énergique, c'est de montrer les images de ce qui se passe.
Justement, en réponse à votre alerte, la préfecture de la Mayenne déclare que des contrôles réguliers sont effectués au sein de la structure et que rien d'anormal n'a été signalé. Elle souligne également l'intrusion illégale dans les locaux. Qu'est-ce que vous, vous répondez à cela ?
Alors, autant c'est une communication que la préfecture de la Mayenne a fait, autant pour l'abattage des cerfs que l'abattage de crans. Il faut savoir que les services de la préfecture, c'est les services vétérinaires de la préfecture qui viennent normalement faire les contrôles, que ce soit dans les élevages ou dans les abattoirs. Pour l'abattoir de crans, par exemple, il y a un vétérinaire qui est mandaté par la préfecture et qui doit s'assurer au niveau des règles sanitaires et aussi de protection des animaux au moment de leur abattage, puisqu'il y a un certain nombre de règlements. Et que, du coup, quand on diffuse ces images, ils sont un peu jugés partis. C'est-à-dire qu'on montre des images à l'abattoir de crans, par exemple. On voit des animaux qui sont conscients sur la chaîne, on voit des animaux qui commencent à être découpés encore vivants. Et finalement, eux, ce qu'ils cherchent à faire au moment de la diffusion de ces images, c'est d'essayer de décrédibiliser notre travail et nos enquêtes, et d'essayer de quelque part de se couvrir, parce qu'ils n'ont pas fait leur travail de contrôle. Et on voit ici, par exemple, pour prendre l'exemple de l'abattage des cerfs, la préfecture répond dans son communiqué que c'est mieux d'abattre les cerfs dans les exploitations parce que les abattoirs, c'est pas fait pour les animaux, c'est stressant pour eux et tout ça. Par ailleurs, on a plus de 40 abattoirs qui sont agréés en France. La majeure partie des cerfs sont abattus dans les abattoirs. Donc on voit bien qu'ils essayent de justifier en fait cette situation qui est où les animaux sont abattus en toute illégalité. Et à la fois, ils essaient de se couvrir. Et on voit pour l'abattoir de Cran, de la même façon, on a eu le ministre de l'Agriculture qui a réagi, Marc Fesneau, et qui dit que sur les images, on a manifestement des non-conformités et qu'il faut réagir pour que cette situation ne se reproduise pas. Et d'un autre côté, la préfecture qui dit non, tout va bien, il y a un équipement qui a été changé, et des images sont obsolètes, quoi. Donc la préfecture vient jouer un peu les pompiers pour venir éteindre l'incendie que provoquent nos images.
L'enquête dont vous parlez concernant l'abattoir municipal de Cran, vous l'avez sortie le 18 janvier. Elle concerne également des mauvais traitements, des conditions d'abattage qui ne respectent pas le cadre légal.
Oui, c'est une situation assez terrible où on voit... évidemment, ce que je vous ai déjà dit, hein, des animaux qui sont suspendus conscients au moment de leur saignée ou qui commencent à être découpés vivants, mais on voit aussi sur les images des violences sur les animaux au moment de leur déchargement, avec l'usage des aiguillons électriques, hein, c'est des petites décharges électriques qui sont utilisées sur les animaux pour les faire avancer là où ils ne veulent pas avancer. L'appareil, la réglementation, elle encadre, elle veut dire qu'on doit utiliser... ces décharges électriques avec parcimonie qu'on doit utiliser sur des animaux adultes sur l'arrière-train, alors que là on voit l'aiguillon électrique qui est utilisé sur la tête des animaux, au niveau des yeux ou au niveau de l'anus. Donc c'est des images qu'on voit ça sur les images, des violences aussi sur les animaux. Des défauts de structure aussi, hein, pas simplement de comportement des employés, mais aussi des défauts de structure. Nous, on a porté plainte. Et là aussi, donc les services vétérinaires sont en permanence sur la chaîne. Vous avez à la fois un vétérinaire et vous avez à la fois des techniciens des services vétérinaires qui sont là pour notamment les questions sanitaires, mettre les estampilles sur les carcasses, donc ils sont là en permanence. Donc tout ça se passe sous les yeux des services vétérinaires. Et pour nous, on a demandé la fermeture de cet abattoir, mais pour le moment, on n'a pas eu de réponse. Enfin, ce qui est arrivé dans plein d'autres abattoirs. Là, on a des images qui sont encore plus fortes que dans d'autres lieux qui ont déjà fermé et qui n'ont pas fermé ici. Mais c'est très politique, finalement, au niveau de la préfecture.
Justement, comme le ministère de l'Agriculture reconnaît aujourd'hui, effectivement, des non-conformités, la préfecture se positionne d'une manière, le ministère de l'Agriculture d'une autre. Qu'est-ce que l'on peut projeter pour l'avenir concernant cette affaire-là ?
Alors c'est triste déjà pour la situation actuelle, hein, parce que s'il y avait une suspension de l'agrément de l'abattoir de Cran, en attendant que les installations soient conformes, qu'il y ait une formation qui soit délivrée aux employés, qu'on remette un peu tout ça à plat, ça avancerait beaucoup plus vite. Tandis que là, du fait qu'il y ait une situation où il n'y ait pas eu de signaux forts qui étaient envoyés par la préfecture, c'est quelque chose qui va perdurer. Hélas, c'est très opaque, hein, c'est-à-dire que c'est très compliqué d'avoir ces images, donc on va pas savoir exactement ce qui se passe. Et souvent, quand il y a eu une fermeture d'abattoir, les choses ont changé un peu radicalement. Donc maintenant, bah, nous, on a porté plainte auprès du tribunal judiciaire de Laval et on a aussi déposé plainte, on va faire un recours contre les services de l'État, justement, qui sont les derniers remparts, notamment pour la protection des animaux. C'est eux qui devraient agir. D'abord, c'est les abattoirs, évidemment, hein, qui doivent faire respecter la réglementation, enfin les exploitants des abattoirs, mais s'ils ne le font pas, c'est les services vétérinaires qui doivent prendre le relais. Donc on va déposer un recours. On a déposé un recours contre l'État pour la salle d'abattage des cerfs et on va le faire aussi pour l'abattoir de Cran, à savoir que l'année dernière, rien que l'année dernière, on a obtenu gain de cause, c'est-à-dire qu'on a obtenu 4 fois la condamnation des services de l'État pour des situations tout à fait similaires, justement, où les juges ont acté les dysfonctionnements et les carences des services vétérinaires sur le contrôle. Donc il ne faut pas imaginer, en tout cas, quand on consomme de la viande et des produits animaux, que on mange de la viande heureuse, on va dire, où les animaux ont été élevés dans des bonnes conditions, transportés, abattus, avec la petite musique et en respectant tous les points de la réglementation. Oui. Ce n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, il y a plus de 3 millions d'animaux qui sont abattus chaque jour en France. Hein, c'est colossal, les chiffres. Et évidemment, la réglementation n'est quasiment jamais respectée.
Est-ce que vous pensez que les conditions d'élevage et d'abattage des animaux se dégradent depuis quelque temps, ou alors est-ce que c'est une situation qui existe depuis longtemps et où en fait tout ça reste un petit peu caché ?
C'est une situation qui existe depuis longtemps. Nous, ça fait plusieurs années, vous l'avez rappelé au début, on fait beaucoup d'enquêtes. En 2016, donc on avait montré beaucoup d'enquêtes d'abattoirs, il y a eu une commission d'enquête parlementaire, donc un travail de 6 mois qui a été fait et qui a justement démontré que c'était très compliqué justement de rentrer dans les abattoirs. C'était Olivier Falorni qui avait fait ce travail, qui était président de la commission, avait dit que c'était aussi compliqué de rentrer dans un abattoir, aussi compliqué de rentrer dans un abattoir que dans un sous-marin nucléaire. Mmh. Donc il y a une vraie opacité. Il y avait des audits qui avaient montré que plus de 80% des chaînes d'abattage n'étaient pas conformes à la réglementation. Pas conformes, c'est-à-dire en violation de la réglementation et qui continuent de fonctionner. Donc aujourd'hui, s'il y a une urgence, aujourd'hui, c'est vraiment de revoir notre rapport aux animaux. Il y a une urgence à réduire le nombre d'animaux parce qu'on ne peut pas tuer plus de 3 millions d'animaux chaque jour dans des bonnes conditions. Faut pas se raconter des contes de fées. La consommation de produits animaux aujourd'hui, de viande notamment, de poissons, de produits laitiers, est la plus élevée en France si on regarde les autres statistiques au monde. Et c'est une consommation qui a explosé à partir des années 80. Il y a une surconsommation et en plus qui entraîne des problèmes de santé publique, au niveau de l'environnement. Tous les rapports disent aujourd'hui qu'il faut diminuer notre consommation par deux de produits animaux. Et c'est surtout cette politique-là qu'il faut faire aujourd'hui. Au-delà du respect de la réglementation, c'est de revoir notre mode d'alimentation et de faire une transition vers une alimentation beaucoup plus végétale.
Vous avez organisé un rassemblement devant la préfecture mercredi 24 janvier. Une pétition était également disponible que vous avez remis, je crois, à la préfecture. Comment les citoyens peuvent vous soutenir aujourd'hui, que ce soit en Mayenne ou même ailleurs, dans tous ces combats que vous menez ?
Effectivement, on voit que quand on montre en tout cas ces images-là, ça réagit très fort. Donc là, rien que pour l'abattoir de Cran, on a eu plus de 140 000, on a dépassé les 150 000 signatures pour appuyer cette demande de la fermeture et puis une visite des parlementaires un peu inopinés des abattoirs, un droit de visite. Et après, si on veut se mobiliser, si la question des animaux nous touche, la question de la maltraitance des animaux nous touche, il y a beaucoup de choses à faire, mais ce que je vous conseil, c'est vraiment d'aller sur le site de L214. On a un onglet qui s'appelle Agir pour les animaux, où vous avez plein de pistes possibles. Notamment, on a une liste des actions express pour les animaux qui permet aussi de nous rassembler sur des actions qui permettent d'obtenir des résultats. En ce moment, on a beaucoup d'actions contre l'élevage intensif et pour essayer de convaincre les supermarchés, parce que c'est finalement dans les supermarchés, on a plus de 3/4 nos achats sont faits dans les supermarchés, donc il y a un enjeu énorme au niveau des supermarchés. Et les supermarchés se sont déjà engagés, par exemple, à ne plus commercialiser des œufs de poules élevés en cage. Donc on était à 80% il y a quelques années de production en cage pour les œufs et on est passé à moins de 30%. Donc voilà. Grâce à ces engagements des supermarchés, on peut avancer vraiment. Et en ce moment, on a une campagne pour demander justement que l'élevage intensif, le pire de l'élevage intensif des poulets de chair, plus de 800 millions de poulets sont élevés dans des élevages intensifs aujourd'hui, plus de 80% des élevages. On demande aussi un engagement des supermarchés à ne plus commercialiser la viande qui soit issue de ces élevages-là. Donc il y a beaucoup de choses à faire, donc je vous conseille vraiment d'aller sur le site L214.com où vous inscrivez à notre lettre d'info, c'est gratuit et on propose très régulièrement des actions. Agir, parce qu'on peut dénoncer, mais il faut aussi proposer des solutions, et c'est ce qu'on essaie de faire aussi.
Merci Sébastien d'avoir été avec nous aujourd'hui, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Un grand merci à vous, et je pense que c'est un sujet très concernant et on peut gagner beaucoup de choses tellement il y a d'animaux qui sont concernés par la question de l'élevage en fait. Et c'est colossal ce qu'on peut arriver à faire, à gagner, beaucoup de choses à faire, mais on peut avancer. Un grand merci.
Merci, merci. Dans quelques minutes, Lucie, on t'écoute pour l'actu en bref. Mais avant, je vous fais prendre l'air, je vous fais grimper un peu, faites-moi confiance, la vue est belle. Ne posez pas de questions et suivez-moi, on va sur le toit avec The Pirouette et son titre L'Escalier.
Je suis le plus petit de mon entourage. J'écoute tout ce qu'on me dit, tous les présages, tous les avis. Et j'entends la franchise, j'entends le converti. Même le plus si sûr de lui, au fond, mais pas si sûr de lui. Et j'ai compris qu'il n'avait rien à comprendre dans cette vie, ni tout seul, ni tous ensemble. Mais je respecte que tu te poses toutes ces questions. Et je te souhaite de trouver tes propres raisons. D'ici là, la lune brille pour toi. Elle guide chacun de tes pas dans l'escalier qui mène au toit. C'est ta victoire, c'est ma victoria. C'est une raison d'être là si j'entends résonner ta voix. Et ça fait 2-3 jours que tu n'es pas bien. Tu ressasses le même discours que t'es flippé parce qu'on n'est rien. Et tu sais plus choisir entre un cuir et un blouson. C'est normal, t'es qu'un pigeon face à l'enchaînement des saisons.
Ouais, t'as compris qu'il n'y avait rien à comprendre dans cette vie, ni tout seul, ni tous ensemble. Mais je respecte qu'il se pose toutes ces questions et je leur souhaite. Pour toi, elle guide chacun de tes pas dans l'escalier qui mène au toit. C'est ta victoire, c'est ma victoire. C'est une raison d'être là si j'entends résonner ta voix.
Pour commencer ces brefs, chers auditeurs, hier matin lundi 5 février à Alexin, dans le nord du département, un camion qui transportait 210 cochons s'est couché sur le côté. 17 sapeurs-pompiers et 4 gendarmes ont été mobilisés sur les lieux. Les deux hommes dans la cabine, de 42 ans et 17 ans, ont été transportés à l'hôpital de Laval. Pour les animaux, un autre poids lourd de la même envergure a récupéré les cochons sous la supervision d'un vétérinaire. On continue à remonter un peu le temps. Le 1er février, la CFDT a adressé un communiqué concernant la direction de la protection de l'enfance, ou DPE pour aller plus vite, suite à des rencontres les lundis 22 janvier et vendredi 29 janvier avec le conseil départemental. Dans son communiqué, la CFDT commence par accuser le président du conseil départemental, Olivier Richefou, je cite, d'irrespect total auprès des professionnels, fin de citation, et le qualifie, je cite à nouveau, d'arrogant, condescendant envers les agents, fin de citation. La CFDT cite précisément des phrases qu'il aurait adressées aux agents de la DPE dans son communiqué. Le sujet de ces rencontres était l'annonce d'une réorganisation de la protection de l'enfance qui se dirigerait vers une territorialisation. La CFDT redoute cette nouvelle organisation et évoque que, selon les professionnels, le suivi des enfants serait de moins bonne qualité avec une telle répartition. Si j'essaye de vous résumer en quelques mots, l'accompagnement serait complexifié et réparti entre trop d'interlocuteurs différents, ce qui expliquerait l'inquiétude des professionnels de la protection de l'enfance. Toujours selon la CFDT, les équipes considèrent cette nouvelle mesure comme punitive et voient une réorganisation qu'ils considèrent pressée sans en comprendre l'urgence. Malgré sa consternation, la CFDT exprime vouloir continuer le dialogue avec l'administration et souhaite continuer à améliorer les conditions de travail des agents. Bon, il y a des bonnes nouvelles aussi, je vous rassure, chers auditeurs, et notamment la jeune chambre économique de Laval qui a annoncé l'inauguration de la Centrale des Héros. Alors oui, la Centrale des Héros, c'est une plateforme interactive destinée aux enfants hospitalisés en pédiatrie pour leur permettre de prendre contact avec leurs super-héros préférés. Une dizaine de voix sont déjà accessibles sur la plateforme et le lancement se fera donc à l'hôpital de Laval dans le service pédiatrique le 7 février à 15h30. Et puis pour terminer, la préfecture a annoncé l'ouverture de la plateforme de remboursement du gazole non routier, ou GNR, pour les agriculteurs, couplée à une avance de 50% sur le remboursement de l'année 2024. Pour celles et ceux qui en ont besoin, les demandes sont à déposer sur le portail Chorus Pro à portail.chorus-pro.gouv.fr. Et côté météo, vous allez voir, ça va aller très vite aujourd'hui. Au menu, c'est pluie éparse tout l'après-midi. Une petite trêve de nuages ce soir et cette nuit pour progressivement retourner vers des pluies éparses toute la journée de demain. Niveau température, on est à 11, 12, 13 degrés cet après-midi. On redescend vers 11 degrés dans la nuit pour remonter à 12, 13 degrés demain toute la journée jusqu'au soir d'ailleurs. Voilà, je vous avais dit que ça allait être efficace. Par contre, petite fantaisie, tenez-vous bien, il y aura des rafales de vent qui commencent dès cet après-midi à 45 km/h et qui vont continuer demain jusqu'à 55 km/h à Villaines-la-Juhel l'après-midi ou à Laval la nuit. Bon, avec tout ça, Théo, il se dit que ce serait sympa que le ciel se calme sur le régime monodiète pluie-nuage-vent.
Hier, je vous emmenais dans ce coin de campagne en Mayenne, à Ruillé-Froidfonds, précisément dans l'atelier de Anne-Marie Aubois, chapelière modiste. Quand un moment nous fait du bien, pourquoi ne pas le prolonger un peu encore? C'est en fait ce que je vous propose aujourd'hui pour la deuxième partie de ce reportage. Anne-Marie nous fait visiter l'atelier, toucher les textures. Suivez-moi, on y va. Anne-Marie Aubois, vous m'accueillez dans votre atelier à Ruillé-Froidfonds. Vous êtes installée ici au milieu de la verdure. On est entouré de vos outils de travail. Je vois là-bas des pièces en bois qui ressemblent à des moules, mais il y a aussi des tas de matières différentes. Quelles sont les matières avec lesquelles vous créez vos chapeaux, justement ?
Donc, je travaille avec différents types de feutres, entre autres le feutre de mérinos de laine. Ça, c'est le plus répandu. 90% de mes productions, c'est du feutre de laine. Et j'ai aussi quelques pièces en feutre de lapin. Au toucher, c'est encore beaucoup plus agréable que le feutre de laine. Et aussi, je travaille la paille, donc la paille naturelle pour l'été, la paille de raffia. Donc tout ça, c'est des matières naturelles. Le sisal, c'est pour faire plutôt des chapeaux de cérémonie. Donc là, j'en ai tout plein de couleurs.
Je le disais tout à l'heure, il y a plein de choses autour de nous. Comment procédez-vous quand vous vous lancez dans une création ?
Alors déjà, quand je suis dans une phase de création, il faut que je sache vraiment, alors si c'est pour une personne particulièrement, ou si c'est pour moi parce que tiens, j'ai envie de m'en fabriquer une, ou alors je suis dans le cadre d'une collection. Donc là, par exemple, là, je vais travailler sur ma collection printemps-été 2024. Quand vous verrez le thème de ma collection, vous comprendrez que ça coulait sous le sens, mais bon, ça je laisse un petit peu de mystère pour l'instant. Et donc là, quand je suis dans le cadre d'une collection, je fabrique un panneau d'inspiration. Hein, donc c'est sur un panneau où je vais vraiment mettre tout ce qui m'inspire sur le moment sur ce thème-là. Et ensuite, je le stoppe, ce panneau. et ensuite je peux me mettre à la création. Mais c'est lui qui va toujours me guider sur le processus créatif de cette collection. Bon, ben après, il y a la phase technique hein, de création. Donc on, là, bon, je dessine un petit peu rapidement mon chapeau. Et soit c'est du coupé-cousu, là où on va être en tissu, ce sera plutôt un produit type couture, par exemple, comme une casquette. Ou bien si c'est du moulage, par exemple avec du feutre. Donc j'ai utilisé mon matériel, mes formes en bois. Hein, donc il y a des différentes formes.
Et là, par exemple, il y a une sorte de tête posée sur votre plan de travail.
Ça s'appelle une marotte. Donc il faut le concevoir comme un mannequin pour la couture, un mannequin, un corps mannequin. Et là, c'est une tête qui est faite chez Stockmann comme les mannequins. Et donc, j'en ai plusieurs tailles de marotte. Et ensuite, je vais mouler ma pièce avec... alors là, il y a tout un processus avec la vapeur et tout ça, pour arriver à créer. Et ensuite, après, quand la forme est faite, donc là, je vais ajuster sur les coupes, s'il y a besoin de couper un peu. Et ensuite, il y a la partie ornement. Les modistes utilisent beaucoup de gros grains. C'est quelque chose, un terme technique à nous.
Qu'est-ce que c'est le gros grain ?
C'est un ruban qui est un ruban qu'on met souvent à l'intérieur du chapeau en entrée de tête. Donc c'est du gros grain de propreté. Et le ruban qui est souvent à l'extérieur, par exemple si on prend un Borsalino type Alain Delon, vous voyez à la base, sur le tour de son chapeau, il a un beau ruban noir souvent sur son chapeau gris. Et ça, c'est du gros grain donc qui est un peu plus large et qui fait l'ornement du chapeau. Donc là, on utilise beaucoup de gros grains de différentes couleurs pour pouvoir faire l'ornement. Et ajouter peut-être une broche ou des plumes ou des boutons, enfin voilà, pour accessoiriser le chapeau.
Et alors dans l'étagère au fond de votre atelier, je vois beaucoup de moules en bois. Comment ça fonctionne ? C'est une forme par type de chapeau peut-être ?
Donc j'ai les formes qui vont être relatives au dessus de la tête, hein, donc on appelle ça la calotte. Il y a aussi toutes les formes pour mouler le bord. Et après on coud ensemble le bord et la calotte pour faire notre chapeau final. Donc il y a certaines formes où on arrive à mouler tout d'une pièce, hein, donc ça c'est... J'en ai trois comme ça, mais c'est des formes qui sont très très chères, donc je limite.
Vous me disiez que vous faites beaucoup de chapeaux pour les cérémonies. Aujourd'hui, le jour de mariage, par exemple, c'est l'occasion de porter un vrai beau chapeau, alors ?
Ouais, je pense que dans certaines familles, il y a une volonté forte de marquer ce bel événement autour du mariage. Hein. Vraiment, c'est historiquement... moi, quand j'étais petite, quand on allait à un mariage, tout le monde prêtait attention énormément à sa toilette. Et en général, on mettait plus facilement le chapeau. Aujourd'hui, le chapeau est beaucoup moins porté. Mais malgré tout, pour les mariages, les gens souhaitent vraiment sublimer leur tenue avec un couvre-chef plus ou moins grand en fonction de la personnalité et de la taille de la personne. Si c'est une dame, par exemple, qui fait 1m80, ben effectivement qu'on ne va pas lui mettre en plus une hauteur supplémentaire. Mais il y a quand même moyen de faire des jolies choses, même pour une grande dame.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à un jeune qui a un rêve, mais qui n'oserait pas encore se lancer ?
J'ai vraiment envie d'encourager les jeunes à peut-être aller vers l'artisanat, si c'est leur souhait, hein, c'est pas une obligation. Mais j'ouvre mon atelier, alors bien sûr sur rendez-vous, pour ces jeunes qui pourraient s'interroger sur ce type de métier. Ça me ferait très très plaisir. Pour moi, c'était juste improbable que je parte sur ce projet, ce magnifique projet. Même aujourd'hui, je dis, je rêve éveillé. Hein.
C'est une belle histoire, finalement.
Ouais, que je souhaite à tout le monde.
Vous l'avez écouté, mais vos yeux sont peut-être curieux de voir son travail. Eh bien, c'est possible sur le site internet de Tour de Mode ou encore sur les réseaux sociaux. Mais tout de suite, on passe à autre chose. J'aime beaucoup quand il nous parle des feuilles d'automne ou quand dans sa chronique, ici, il jette comme une bouteille à la mer. Mais alors Donatien, quand il nous parle d'amour, c'est en chanson et pas n'importe laquelle. Écoutez.
La Saint-Valentin approche et Donatien s'apprête à écrire à la belle Ariane une lettre d'amour. L'exercice n'est pas simple tant les poètes ont usé les métaphores pour déclarer leur passion à la femme aimée, la comparant à une rose pour sa beauté, à l'horizon pour l'immensité et l'infini, à l'océan pour sa profondeur, à la lumière pour sa pureté. Ariane, c'est l'héroïne du roman d'Albert Cohen, Belle du Seigneur. C'est l'impossible rêve, l'inaccessible étoile de cette chanson dans laquelle l'amoureux, en poursuivant sa quête, éclabousse la ville de bleu. Donatien ne se lasse pas d'écouter les textes de Jacques Brel, des textes qui racontent une histoire. Madeleine, qui ne viendra pas, tandis que Mathilde, elle, est revenue. L'histoire de Jojo qui reprend Saint-Nazaire, qui sait le nom des fleurs. L'histoire de la fanette emportée par ses désirs. De Jeff, qui a le cœur si gros qu'il veut se foutre à l'eau. De ces Flamandes qui dansent encore en fêtant leurs 100 ans. Et de ses amants à Orly, qui pleurent et s'abandonnent, qui se séparent, qui crient et se déchirent. Et puis, ils se reprennent, redeviennent un seul, redeviennent le feu, et puis se redéchirent. Se tiennent par les yeux. Avec Jacques Brel, Donatien voyage, des remparts de Varsovie à Bruxelles, de Bruges à Gand, sous le ciel flamand, dans l'immensité du plat pays, le long d'un canal et sur les chemins de pluie. Puis, l'accordéon l'emporte à Vesoul, à Vierzon, à Honfleur et à Hambourg, parce qu'il aime bien les ports, le grand Jacques. Le port d'Amsterdam, où il y a des marins qui chantent, d'autres qui boivent, qui dansent, se tordent le cou, se plantent le nez au ciel et se mouchent dans les étoiles. Enfin, on lève l'ancre. On s'éloigne du port et on met le cap sur les Marquises, où le temps s'immobilise, où l'Alizé se brise, où la nuit est soumise. Ce soir, Donatien regarde la mer sur laquelle la lune s'avance. Sur un rocher, le rire se brise et devient le chant de repentance, mais gémir n'est pas de mise. Alors, tant que bat son cœur voyageur, Donatien l'entendra rythmer cette prière. Ne nous quittons pas, pour que continue l'histoire des mots dans les regards et dans la voix.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oubliez le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'enfuirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai en demain où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce bois mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paru-t-il des terres brûlées dont n'a plus de blé qu'en meilleur avril. Et combien le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas.
ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta mère, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Vous avez bien sûr reconnu Nina Simone et sa reprise de Jacques Brel, Ne me quitte pas. Nous y sommes, c'est la fin de cette émission. Merci à Sébastien Arzac, porte-parole et cofondateur de l'association L214 d'avoir été avec nous. Merci à Donatien, merci à toi Lucie. La fin de l'agité, c'est maintenant, mais quand une chose s'arrête, une autre arrive ensuite. Et c'est le cas sur l'autre radio, puisqu'à 19h, vous écouterez les rendez-vous de la peste.
Et pour ce deuxième rendez-vous de la peste de l'année, Janina reçoit Saïd Aboudali, directeur d'Alternatrix, qui est une structure d'insertion par l'activité économique qui propose à ses 120 salariés plusieurs supports d'activité au cœur des préoccupations de l'ESS et de la responsabilité sociétale et environnementale.
La soirée continue plus musicale à 21h.
Oui, avec Frères de Chaussures, et Frères s'écrit bien avec un accent circonflexe. Fatshu qui anime notre émission de rap français y tient attention.
Alors restez à l'écoute de l'autre radio, nous on se retrouve demain, même rendez-vous, même heure, et j'aurai le plaisir d'avoir avec moi des membres du chœur, les filles de voix qui se produiront au musée d'art naïf et singulier à Laval ce dimanche 11 février. D'ici là, passez un bon moment sur nos ondes et bien sûr, vous le savez, faites-le bien.
Mimi, tu crois que c'est fini?
Quand elle dit au revoir, bah c'est que c'est terminé.